En séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
J'ouvre la séance. Le procès-verbal de la précédente séance, celle du lundi 20 février, vous a été distribué. Appelle-t-il des demandes de modification de l'un ou l'autre d'entre vous ? Tel n'est pas le cas. Il est donc approuvé. Et je passe maintenant à la question de la correspondance.
Oui. Merci, Monsieur le Président. Donc, on demandait à être excusé à la séance d'aujourd'hui. Jean Béchler, Jean-Claude Casanova, Jean Cluzel, Bertrand Collomb, Chantal Delsol, Yves Gaudemet, Denis Kessler, Emmanuel Leroy-Ladurie, Jean-François Mattei, Thierry de Montbrial et Jean Tirole, ainsi que nos confrères qui malheureusement ne sont pas en bonne santé actuellement. Alors je voulais, mais je vais quand même, si vous me permettez Michel, d'en dire un tout petit mot. Je voulais saluer deux étudiants de Sciences Po, mais qui n'ont pas l'air d'être là, et peut-être dans la salle d'à côté, parce que, mais je vous en parlerai la semaine prochaine au comité secret un peu plus longuement, Sciences Po va nous envoyer à chacune de nos séances un petit groupe d'étudiants qui viendront y assister et qui pourront, après la séance publique, poser quelques questions aux conférenciers en privé. Donc c'est quelque chose qui intéresse beaucoup, beaucoup Sciences Po, et je pense que pour nous, c'est plutôt une bonne chose que de recevoir des étudiants. Nous avons aussi,
voilà,
je crois...
Il s'agit naturellement d'étudiants volontaires.
Peut-être, oui. Si vous me permettez encore une chose, je crois que nous pouvons saluer notre confrère correspondant, monsieur l'ambassadeur Orlovski, qui nous rejoint aujourd'hui et qui s'est installé pour sa santé à côté d'André Vacheron.
Très bien. Il y a des dépôts d'ouvrages. Alain, je vous en prie.
Merci, Monsieur le Président. Je voudrais déposer sur le bureau de cette compagnie un ouvrage remarquable qui est de Patrick Guénifet, qui s'intitule « Napoléon et de Gaulle, deux héros français » qui est publié aux éditions Perrin. Bon, tout le monde connaît Patrice Guénifet. Son dernier ouvrage sur Bonaparte avait eu un grand succès, d'ailleurs largement mérité. Il a l'avantage d'être à la fois savant sans être pédant. Il y a 150 pages de notes, donc ça peut rassurer les historiens. Mais le récit se lit admirablement bien. Il sait tout à fait alterner les réflexions avec les descriptions. Et il va très au-delà des personnages pour poser des questions qu'on ne pose pas si souvent dans ce genre de livre. La première est bien entendu qu'il souligne le fait que aussi bien Napoléon que le général de Gaulle ont en commun d'avoir réussi sur tous les champs un nombre de réformes à un rythme qui n'a jamais été égalé autrement dans l'histoire française. Il pose aussi la question de savoir... pourquoi l'un comme l'autre ont su à la fois arriver, partir et revenir avec une rapidité assez confondante. Il relève beaucoup, et ces passages-là sont assez intéressants, leur attirance, je dirais, dès l'enfance pour l'écriture, leur première tentative assez médiocre, il faut bien le dire, et ensuite ils comparent de très près leur style et ce que ça signifie. Je remarque d'ailleurs qu'au bout du compte, il a l'air de préférer le style oral de Napoléon au style écrit du général. Il s'interroge aussi beaucoup sur le point de savoir pourquoi Napoléon, qui a dévasté l'Europe, est resté hors de nos frontières, sensiblement plus populaire que le général de Gaulle, qui, lui, n'a jamais fait de mal à nos voisins, bien au contraire. Enfin, c'est un livre qui est très intéressant pour ceux que la vie des idées stimule particulièrement, je dirais, qu'il y a aussi toute une série de mises au point réjouissantes, notamment par rapport au général de Gaulle. Par exemple, il prend les premiers gens la couture qui étaient extrêmement critiques à propos du général et puis ensuite les derniers qui étaient franchement relevés de l'adulation. Il considère le premier Régis Debray et ses premiers textes et le dernier Régis Debray et ses textes. Il règle son compte à Jean-François Revel qui s'en était pris au style du général. Il prend des distances avec François Mauriac qui trouve quand même un peu exagéré dans l'admiration. Il se permet même quelques distances avec Raymond Aron, qu'il compare d'ailleurs de façon assez drôle. Raymond Aron par rapport au général de Gaulle, à Germaine de Staël par rapport à Napoléon, ce qui est assez bien vu finalement. Il se permet même, je crois que je n'ai pas lu ça depuis très longtemps, une réserve, un paragraphe seulement, mais une réserve néanmoins vis-à-vis de Tocqueville, ce qui aujourd'hui ne se fait plus, comme chacun sait. Bref, c'est un livre qui est de très bonne qualité, qui se lit très bien, qui ne bouleverse pas la connaissance qu'on a du sujet. On a l'impression, au bout du compte, qu'il reconnaît plus de génie à Napoléon, ne serait-ce qu'à cause de ses capacités de capitaine, mais qu'il a plus d'admiration pour le général de Gaulle, avec un argument qui est assez intéressant, en tout cas, selon moi, qui est que Bonaparte puis Napoléon ont été portés par son époque et par les Français, et que le général de Gaulle est arrivé à faire ce qu'il a fait, malgré son époque, et en bonne partie, malgré les Français. Et je trouve que c'est une thèse qui est intéressante. J'ai peut-être été trop long, et je vous remercie.
Merci. Y a-t-il d'autres dépôts d'ouvrages? Oui, Yvon Gattaz.
Oui, notre Académie connaît bien Axel Mouget, notre infatigable ambassadeur de la francophonie, dont nous avons déjà ici même présenté plusieurs ouvrages. Si certains doutent des possibilités du français et de la francophonie, les 25 chapitres de ce livre consacré au nouveau rayonnement de notre langue effaceront leur incrédulité, tant ce renouveau est réel, en phase ascendante, en dépit des difficultés et des coupes budgétaires. Pour éclairer ce renouveau, Axel Mouget propose un vaste tour d'horizon au cours de cet espace en français, aussi bien en Europe et en Afrique que dans des pays particuliers tels que la Chine, l'Argentine, les États-Unis ou le Québec. Le nouveau rayonnement du français est réel dans plusieurs grandes régions du monde, comme en Asie, dans les Amériques et dans le monde arabe. Depuis 10 ans, il est réconfortant, dit Mouget, de constater une vive demande en faveur de notre langue qui fascine tant d'êtres humains, même si bon nombre de responsables ne savent pas trop comment canaliser cette efflorescence francophone. À la fin du XXe siècle, on pouvait craindre une marginalisation de notre civilisation, quelque peu laissée dans l'ombre par le dynamisme, voire le triomphalisme américain, stimulé par nos propres hésitations, il faut bien le dire. Il demeure exact que pour beaucoup de citoyens de notre terre, la France reste un modèle, un pays clé au service de l'humanisme mondial, héritière des civilisations grecques et romaines. Elle s'inscrit, comme dit Mouget, au cœur du donner et du recevoir, et de la raison et de la passion. Voici un hymne sans fausse note à la superbe francophonie à travers le temps et à travers le monde.
Merci. Yvon Gattaz, y a-t-il d'autres dépôts d'ouvrages? S'il n'y en a plus, nous allons passer naturellement au point suivant de notre ordre du jour. Et je suis heureux d'accueillir Jean-Michel Blanquer. Cher monsieur, vous êtes docteur en droit de l'Université Paris-Panthéon-Assas avec une thèse sur les méthodes du juge constitutionnel sous la direction de Jacques Robert. Vous êtes agrégé de droit public et également titulaire d'une maîtrise de philosophie et d'un DEA d'études politiques. Après avoir été chercheur coopérant à l'Institut français d'études andines de Bogota en Colombie de 1989 à 1991, vous avez étudié à Harvard grâce à une bourse Lavoisier du ministère des Affaires étrangères avant de rejoindre l'université. Paris Panthéon Assas, comme attaché temporaire d'enseignement et de recherche. Puis ensuite François Rabelais à Tours, comme maître de conférence, puis comme professeur à l'Institut d'études politiques de Lille, l'Université Lille 2 de 1996 à 1998. Et enfin, l'Université Paris 3, où vous avez dirigé l'Institut des hautes études de l'Amérique latine de 1998 à 2004. À cette date, vous êtes nommé recteur de Guyane, poste auquel vous êtes resté jusqu'en octobre 2006, lorsque Gilles de Robien, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, vous appelle à son cabinet comme directeur adjoint. Vous y restez une année environ avant de devenir un très dynamique recteur de l'Académie de Créteil, où vous prenez des initiatives innovantes, telles les conventions d'éducation prioritaire signées avec Sciences Po ou la création de l'internat d'excellence de Sourdin. En 2009, vous êtes nommé directeur général de l'enseignement scolaire, où vous demeurez jusqu'en 2012. Vous présidez depuis 2004 l'Institut des Amériques, un groupement d'intérêts scientifiques qui associe 60 établissements, dont le CNRS et l'IRD. J'aime rappeler que la cérémonie au cours de laquelle fut lancé cet institut s'est déroulée sous l'égide de l'Académie, dans la salle voisine. Enfin, depuis juin 2013, vous êtes le directeur général du groupe ESSEC. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur le droit constitutionnel, la théorie du droit en Amérique latine, mais aussi sur l'éducation, en particulier l'école de la vie en 2014 et l'an dernier l'école de demain, proposition pour une éducation nationale rénovée. C'est une des raisons qui nous ont conduit à vous proposer de prendre la parole devant nous aujourd'hui pour répondre à la question suivante. Comment revaloriser la filière professionnelle et l'apprentissage dans l'esprit des enseignants, des familles et des élèves? Merci de votre présence. Je vous donne la parole.
Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis à la fois très heureux, très honoré d'être là, mesdames et messieurs les académiciens. Merci pour votre accueil. Et je suis très heureux de venir dans cette maison que j'ai un peu fréquentée, notamment à l'occasion que vous avez rappelée. Je vous en remercie. Mais aussi lorsque j'étais directeur général de l'enseignement scolaire, puisque fort heureusement, il y a des raisons pour qu'il y ait des liens forts entre la rue de Grenelle et le Quai Conti, et c'est d'ailleurs des relations qui ne sont jamais suffisantes. Je fais partie des gens qui pensent que le lien devrait être très direct entre les deux maisons. Donc je suis très heureux d'être parmi vous, très heureux aussi de m'exprimer sur un sujet qui est un peu difficile, non pas tant par sa dimension technique qui est réelle, que par la question telle que vous l'avez posée, puisque vous me demandez très clairement d'intervenir sur les voies de réforme. Néanmoins, je vais essayer de répondre à cette question. Et je le ferai en disant d'emblée, vous avez rappelé que j'ai écrit deux ouvrages assez récemment sur l'école et sur la réforme possible, que lorsque je parle de façon générale du système scolaire, je dis toujours que s'il n'y avait que deux endroits sur lesquels il faudrait agir prioritairement, ce qui n'exclut pas les autres, bien entendu, mais c'est d'abord, premièrement, l'école maternelle, où énormément de choses se jouent, et en incluant le cours préparatoire dans cette attention aux premiers âges de la vie. Et deuxièmement, l'enseignement professionnel. D'une certaine façon, l'amont et l'aval des difficultés du système français, puisque en amont, bien des problèmes qui vont se révéler plus tard se jouent aux premiers âges de la vie. Et en aval, on va retrouver dans l'enseignement professionnel, malheureusement, je vais évidemment abondamment revenir là-dessus, ceux que l'on a considérés comme ne pouvant pas continuer dans l'enseignement général, donc sous une forme souvent négative. Et c'est donc là que va se concentrer une bonne partie du décrochage scolaire en France et une grande partie des difficultés. Alors même que nous savons très bien que l'on peut concevoir un enseignement professionnel de qualité, un enseignement professionnel valorisant, un enseignement professionnel qui serait attractif, et que cela n'a rien d'une utopie, puisque notre voisin qui va le mieux, l'Allemagne, a réussi quelque chose de ce type, et que évidemment la comparaison internationale sur ce sujet comme sur d'autres peut nous aider formidablement à raisonner pour les réformes indispensables. Donc pour arriver à réfléchir sur cette question de la réforme, sur la question des évolutions souhaitables, j'aurais d'abord commencé par un petit point d'histoire, je ferai ensuite un petit constat, et ensuite j'arriverai évidemment aux questions de l'action. Sur la question de l'histoire, on a une structuration aujourd'hui en France qui est largement ancrée dans notre histoire, et notamment depuis le XIXe siècle, puisque dès le début, deux conceptions de l'enseignement professionnel se rivalisent, et les deux consistent à privilégier soit l'arrimage à l'éducation nationale, à l'instruction publique, soit l'arrimage au monde économique, au monde de l'industrie, ce qui correspond donc à deux compétences politiques et administratives, bien entendu, le ministère de l'instruction publique d'un côté, le ministère du commerce et de l'industrie de l'autre. Et donc la solution n'est que partiellement fournie par la loi du 11 décembre 1880, qui a institué les écoles manuelles d'apprentissage, puisqu'elle considère ces établissements comme des écoles primaires, et de ce fait, les rattache de façon dominante à l'instruction. Le problème est finalement en partie résolu par la loi de finances du 26 janvier 1892, qui rattache les écoles primaires supérieures, dont l'enseignement est principalement industriel ou commercial, au ministère du Commerce et de l'Industrie, et qui les transforme bientôt en écoles pratiques de commerce et d'industrie. Donc on a, à la fin du XIXe siècle, un certain nombre de tendances qui vont se cristalliser, qui sont à la fois des tendances pédagogiques, mais aussi des tendances administratives, et qui ont un très fort impact jusqu'à aujourd'hui. En 1892, vous avez la création d'une direction de l'enseignement technique, et puis en 1912, la création d'une école normale de l'enseignement technique, l'ENET, pour former les professeurs, ce qui donc, dans la tradition française, évidemment, couronne un dispositif de formation professionnelle de temps complet en école. Et donc à la veille de la Première Guerre mondiale, on a trois types d'établissements. On a quatre écoles nationales professionnelles, de Vierzon, Armentières, Voiron et Nantes, qui scolarisent 1600 garçons, et un ensemble de 73 EPCI qui regroupent près de 12 000 garçons et moins de 3 000 filles. Enfin, on a 15 écoles professionnelles de la ville de Paris qui rassemblent 3 700 élèves. Donc on a, à la veille de la Première Guerre mondiale, un portrait du système qui est déjà qui préfigure déjà ce que nous connaissons, avec une forte spécialisation de l'école professionnelle et en même temps un rattachement au commerce et à l'industrie qui n'empêche pas un rattachement fort à l'instruction publique. Cette évolution historique va amener à une situation où, progressivement, on va considérer la voie professionnelle comme étant d'abord et avant tout quelque chose qui relève de l'éducation nationale. Sans rentrer dans tous les détails de l'histoire, nous avons aujourd'hui un système qui clairement distingue deux filières, la filière professionnelle avec les lycées professionnels, et d'autre part, la filière de l'apprentissage avec ce qu'on appelle les CFA ou les UFA, qui sont des centres pour la formation des apprentis. Aujourd'hui, si l'on fait un portrait de notre jeunesse, en ayant à l'esprit qu'une cohorte d'enfants et de jeunes, c'est environ 800 000 personnes chaque année, on a 60% des élèves qui vont au lycée général et technologique. Gardons à l'esprit que c'est 36% dans le gymnasium allemand qui peut se comparer à cela, et 40% d'une génération qui vont en voie professionnelle. Cela fait, toujours si on fait un tableau, 660 000 élèves en voie professionnelle scolaire, 56% sont dans le domaine du service et 44% dans le domaine de la production. Et donc cela fait, à l'intérieur de ce chiffre de 660 000, 120 000 qui suivent une formation pour avoir un CAP et 540 000 qui suivent une formation pour avoir un bac professionnel. En plus de ces 660 000 élèves en voie professionnelle, nous en avons 430 000 en apprentissage. Rappelons que c'est 1,4 million en Allemagne, parmi lesquels 40% préparent un CAP, 25% préparent le baccalauréat professionnel et le brevet professionnel, et 35% préparent un diplôme du supérieur, c'est-à-dire majoritairement un BTS. C'est donc un brevet de technicien supérieur. Face aux élèves de l'enseignement professionnel, on a 58 000 professeurs du lycée professionnel. Excusez-moi de vous donner comme ça un grand nombre de chiffres, mais c'est un petit peu, pour commencer, une façon de vous dresser le tableau. Cette situation apparaît comme insatisfaisante aujourd'hui, tant pour des raisons quantitatives que pour des questions qualitatives. Pour les questions quantitatives, parce que elle débouche sur une situation d'insertion professionnelle qui est très faible par rapport à celle de nos voisins. Le chômage des jeunes en France aujourd'hui est d'environ 25%. En Allemagne, il est de 7,8% pour cette tranche d'âge des 17-24 ans. Et donc, ce qu'on peut appeler les jeunes de qualification intermédiaire réussissent bien mieux en Allemagne qu'en France, et même s'il y a une grande différence entre l'Allemagne et la France en matière de formation, c'est à ce niveau qu'elle se situe. Pour continuer à expliciter cette comparaison entre la France et l'Allemagne, il est évidemment important de souligner deux points. Le premier, c'est que la distinction entre les filières se passe bien plutôt en Allemagne, avec une orientation dans trois collèges possibles, ce que nous appellerions des collèges en France, dont un clairement professionnel dès l'âge de 12 ans. Première grande distinction. Et ensuite, deuxième grande distinction, une homogénéité des parcours professionnels à ce qui correspond à l'âge du lycée dans le cas de l'Allemagne, alors qu'en France, nous avons la distinction très forte entre le lycée professionnel et les centres de formation des apprentis. Donc une grande différence en amont, ce qu'on pourrait appeler une présélection en Allemagne, et une grande différence en aval, la distinction de deux domaines en France, tandis que l'on a un seul domaine en Allemagne. Ces deux distinctions sont probablement ce qu'il y a de plus explicatif de nos différences de système, mais bien entendu, il y en a d'autres sur lesquelles je reviendrai, mais c'est évidemment là qu'il faut regarder le premier problème. Notre système donc pose un problème qualitatif pour les raisons que je viens de dire. Il pose aussi des problèmes quantitatifs parce qu'il est coûteux et peu efficace. Il est coûteux. Il faut compter dans la voie scolaire un coût d'environ 12 000 euros par an et par élève. Il représente un taux d'abandon élevé, environ 25% au niveau du CAP et au moins 20% au niveau du bac pro. Et il correspond à un taux d'insertion très insuffisant, puisque 31% des titulaires du CAP ou du BEP, quand il existait encore, se retrouvent au chômage 3 ans après l'obtention de leur diplôme. Ce chiffre tombe à 20% pour les détenteurs d'un bac pro. Face à cela, l'apprentissage en France correspond à des chiffres meilleurs. Le coût est de 6 500 euros par an en CF1, dont 4 300 sur fonds publics. Cela correspond à environ 6 milliards d'euros de coûts. Et même si ce coût a augmenté depuis une dizaine d'années, ceci reste très compétitif, si je puis dire, par rapport au lycée professionnel. L'apprentissage en France concerne pour 2/3 le niveau inférieur au bac, mais il y a une originalité française qui est qu'un tiers des apprentis viennent de l'enseignement supérieur. Je mets un instant ma casquette de directeur général de l'ESSEC, puisque c'est à l'ESSEC que s'est inventé l'apprentissage dans l'enseignement supérieur il y a un peu plus de 20 ans, et qu'aujourd'hui, ça s'est généralisé dans l'ensemble des universités. Alors, un thème qui peut être un thème de débat est justement la pertinence de cet apprentissage dans l'enseignement supérieur. Il est parfois critiqué en France comme étant éventuellement concurrent du reste de l'apprentissage et comme ne concernant pas véritablement l'apprentissage. Pour ma part, évidemment, je défends le point de vue inverse. D'abord parce que je vis au quotidien les avantages sur le fond comme d'un point de vue social de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur. Ensuite parce que dans le cas français où on a besoin de valoriser la notion d'apprentissage, le fait que des grandes écoles ou des universités pratiquent l'apprentissage est en soi un élément d'exemplarité. Et puis, de façon générale, je pense que l'esprit de l'apprentissage, l'esprit du compagnonnage, est un esprit qui suppose du continuum, qui suppose des progressivités, et qu'on doit l'imaginer assez tôt dans la vie et pouvant durer assez tard dans la vie, y compris d'ailleurs au-delà de l'âge des étudiants. Un des paramètres que l'on va devoir prendre en compte, c'est évidemment que dans un monde caractérisé par la formation tout au long de la vie, l'apprentissage prend un sens renouvelé. Je donnerai un exemple, une illustration de ce que je suis en train de dire. Nous avons à l'ESSEC des relations très fortes avec Singapour, puisque nous y avons un campus. Le Singapour est bien connu pour les bonnes performances de son système scolaire et de son système économique. Le premier ministre de Singapour, le vice-premier ministre actuel de Singapour, qui est l'ancien ministre de l'Éducation, auquel Singapour doit sans doute une partie de la qualité de ses résultats aujourd'hui, est venu en France récemment pour regarder notre système. Et le grand slogan de Singapour, c'est « Learning by doing ». Et lorsqu'ils regardent l'Europe, ils se sont intéressés beaucoup à l'apprentissage en Allemagne, mais aussi à l'apprentissage dans l'enseignement supérieur en France. Et notamment d'ailleurs à l'ESSEC. Et donc, il y a aujourd'hui une possibilité pour la France d'être exemplaire en matière d'apprentissage, c'est par l'enseignement supérieur. Alors ça ne veut pas dire que la grande priorité n'est pas les niveaux inférieurs, bien entendu. Mais en tout cas, il faut plutôt, je pense, viser les effets de contagion, les effets d'exemplarité de ce côté-là, plutôt que d'envisager de casser quelque chose qui marche au profit de quelque chose qui ne marche pas très bien aujourd'hui. C'est d'ailleurs, entre nous soit dit, un petit peu ce qui s'est passé ces dernières années. Et ce qui a bien marché, c'est de casser ce qui marche, mais ça n'a pas pour autant eu d'effets positifs sur l'apprentissage pré-bac. Donc une analyse au premier degré consisterait à vouloir combattre l'apprentissage dans l'enseignement supérieur au nom de la priorité de l'apprentissage dans les niveaux inférieurs, mais une vue au deuxième abord conduit à mes yeux au contraire à vouloir fortifier et l'un et l'autre. On a donc, pour revenir à l'apprentissage tel qu'on l'entend souvent dans le langage courant, c'est-à-dire à l'apprentissage au niveau pré-bac, des résultats qui sont meilleurs que dans l'enseignement professionnel scolaire, mais qui ne sont pour autant pas parfaits. On a 25% de taux de résiliation des contrats d'apprentissage, et même si on a un taux d'insertion meilleur que dans la voie scolaire, qui est environ de 10 points de plus que dans la voie scolaire, après donc l'obtention d'un CAP ou d'un bac pro, ce chiffre reste encore trop faible par rapport à ce qui devrait être possible, a fortiori si on rejoint le type de statistiques que l'Allemagne rencontre. En tout état de cause, ce premier portrait vous permet de voir que dans les deux voies professionnelles qui existent en France, il y a sans aucun doute une qui marche mieux que l'autre. Et c'est évidemment un ancien directeur de l'enseignement scolaire qui le dit, c'est-à-dire un ancien responsable de la voie qui marche le moins bien. Et donc je ne le dis pas avec plaisir, mais je le dis, je l'espère, avec un peu de lucidité. Ce qui évidemment amène à envisager des éléments de réforme. Pour parachever ce tableau et avant d'envisager les éléments de réforme, ce système est en plus assez complexe et assez illisible. La manière dont je l'ai décrit depuis quelques instants est volontairement simplificatrice, mais en réalité, il y a derrière cela des structures multiples. J'ai parlé des lycées pro, des CFA et des UFA, des contrats multiples, contrats de professionnalisation, contrats d'apprentissage, des diplômes divers, bac pro, CAP, BEP, BTS, DUT, etc. Un financement très complexe, 3 contributions pour l'apprentissage, avec un grand nombre d'effets de seuil, une gouvernance multiple et déresponsabilisante. On retrouve là la question de la double tutelle du ministère de l'Éducation nationale et du ministère du Travail, et donc ce qui donne à l'échelle déconcentrée les rectorats et les préfectures, et ceci est donc déresponsabilisant. L'enseignement professionnel relève de façon dominante de l'Éducation nationale pour les professeurs, mais la carte des formations relève du conseil régional et du rectorat. L'apprentissage, pour sa part, relève plus du conseil régional. Et donc, on a des contraintes de structure qui deviennent le facteur dominant d'organisation du système, beaucoup plus que la prise en compte des besoins des entreprises et des élèves. Et donc, c'est ainsi que le résultat est qu'on a des formations sans débouchés qui sont maintenues, et donc une faible réactivité par rapport à ce qu'indique le marché du travail. Le résultat de ceci, c'est qu'on a un système qui est largement dévalorisé dans l'esprit public. La promotion de la voie générale est considérée comme la seule voie d'excellence. Et sans prendre seulement l'exemple de l'Allemagne, Le cas de la Suisse nous donne une très belle illustration de ce que cela peut donner quand la voie professionnelle est considérée comme noble et prestigieuse. Des lycées professionnels et un apprentissage qui souffre d'une image de relégation, évidemment avec de très belles exceptions. Par exemple, certaines filières d'excellence dans l'hôtellerie, l'école Boulle, toute une série de bons exemples. On a aussi des territoires où cela se passe bien. Le cas évidemment toujours cité, c'est celui de l'Alsace, où l'apprentissage fonctionne bien et avec un certain prestige. Et puis, on a des entreprises qui peinent à offrir des places d'apprentissage, malgré des incitations multiples, alors que en Allemagne, les entreprises offrent un très grand nombre de places pour le 1,5 million d'apprentis allemands, et elles acceptent de supporter l'essentiel des coûts. Les conséquences sociales sont dramatiques. 120 000 élèves sortent chaque année du système éducatif sans diplôme. Le chômage, rappelons-le, touche 1,9 million de jeunes de 15 à 29 ans, qui sont ni scolarisés, ni en emploi, ni en formation. 25% des jeunes sont au chômage, je le disais tout à l'heure, et 49% des jeunes sortis sans diplôme de l'école sont au chômage 3 ans après. Donc, une fois que ces éléments de causalité et ces éléments de description sont posés, quelles sont, en fonction de la question que vous m'avez posée, les pistes d'avancée pour la suite? D'abord, première piste, la réunification de la voie professionnelle et de l'apprentissage. J'ai insisté en creux sur cela depuis tout à l'heure. Le lycée professionnel les centres de formation des apprentis gagneraient dans le futur à se rassembler, et l'apprentissage pourrait devenir la voie normale de formation en lycée professionnel, la voie systématique de formation en lycée professionnel, ce qui serait d'ailleurs l'occasion de mieux utiliser les moyens qui sont dans les lycées professionnels. Première réforme serait une réforme assez considérable, qui bien entendu ne pourrait pas se faire du jour au lendemain, mais elle aurait comme conséquence immédiate aussi une interrogation sur la tutelle d'une telle structure, puisque, comme on l'a vu, le lycée professionnel d'un côté, le CFA de l'autre, n'ont pas le même statut. Là, on a deuxième piste très importante, qui serait de conférer aux régions la compétence pleine et entière pour ce domaine, le domaine donc de la formation professionnelle. Ceci serait très cohérent avec les compétences régionales telles qu'elles se sont définies depuis les premières lois de décentralisation, puisqu'aujourd'hui les régions sont compétentes en matière de développement économique et en matière de formation professionnelle. Ce serait donc la conséquence logique de toute une série de tendances qui ont eu lieu depuis plusieurs années. De plus, en matière de gestion des ressources humaines d'une part, en matière de prise en compte des réalités économiques et sociales d'autre part, les régions sont évidemment beaucoup plus à même que l'État de le faire. Cette double réforme aurait comme conséquence une troisième, qui serait l'évolution majeure des contenus et donc de l'image du lycée professionnel. Ce serait la conséquence naturelle des points précédents. Mais le lycée professionnel doit changer probablement de nom, et derrière le nom, changer totalement d'image dans la société française. Cette fois-ci, de nouveau, je peux remettre ma casquette de directeur de l'ESSEC pour réfléchir à cette question, sur laquelle j'ai encore évolué depuis environ 3 ans. En tant que directeur de l'ESSEC, je passe beaucoup de temps à prôner le lien très fort entre ingénieurs et managers. C'est l'ESSEC, par exemple, a un lien très fort avec l'école centrale ou avec d'autres écoles d'ingénieurs. Et de façon générale, on sait que dans l'économie de demain, ce lien-là est un lien décisif de réussite pour nos entreprises. Ce raisonnement, mené mutatis mutandis pour le lycée professionnel, peut changer du tout au tout l'idée que l'on se fait de ce qui s'y passe. Puisque, en réalité, du fait de l'évolution de l'économie, du fait de l'évolution de la société, du fait de la révolution technologique et scientifique à laquelle nous assistons, nous savons d'une part que une bonne partie des métiers de demain ne sont pas ceux d'aujourd'hui, et nous savons d'autre part que ces élèves auront plus encore qu'aujourd'hui à créer de la richesse par eux-mêmes, à avoir le sens de l'initiative, et beaucoup ont vocation à être des entrepreneurs. Rappelons aussi que les chiffres ne sont pas seulement des chiffres de mauvaise adéquation entre les offres d'emploi et la demande d'emploi. Ce sont aussi des chiffres qui nous montrent que là, on pourrait créer des entreprises, notamment dans l'artisanat, plus qu'on ne le fait, et que les diplômés de l'enseignement professionnel qui le font ont des réussites brillantes quand cela se passe. Et donc, en d'autres termes, on peut imaginer d'avoir une image du lycée professionnel dans le futur, qui soit un lycée professionnel de l'entrepreneuriat, des savoir-faire et de la technologie. Autrement dit, des lycées qui soient en pointe par rapport à toutes les questions des différentes révolutions numériques, plus en pointe encore que ne le seraient les autres domaines, et ce serait vecteur d'une image de modernité formidable, de sentir que si on va dans le futur lycée professionnel, on va en réalité dans un lycée du numérique, d'une manière ou d'une autre, encore plus que lorsque l'on va au lycée général. C'est évidemment un point essentiel. C'est un lycée des savoir-faire, puisqu'on a des enjeux majeurs de perpétuation des savoir-faire français ancestraux ou récents, mais aussi de création de nouveaux savoir-faire, et que c'est un point fort de la France et que c'est vecteur de très nombreux métiers. Et puis ce sont des lycées de l'entrepreneuriat, parce que c'est des lycées où on apprend non seulement la gestion, mais aussi la création d'entreprises et la possibilité de développer sa propre affaire. Ce triptyque, la technologie, les savoir-faire, l'entrepreneuriat, correspondent à trois éléments très valorisés dans l'esprit public. Et si demain ils étaient accolés au lycée professionnel, et si par-dessus le marché on avait ces lycées conduits par les régions dans une perspective elle aussi très dynamique, et où on ne ferait plus de distinction entre l'apprentissage et la voie scolaire, mais où tout ceci serait articulé, eh bien cela peut laisser imaginer un lycée professionnel qui change d'image. Dans un monde, comme je le disais précédemment, caractérisé par la formation tout au long de la vie, ce changement d'image se caractériserait aussi par le fait que on ne considérerait pas cela comme une voie de relégation, comme une voie d'enfermement, ou comme de choix par défaut, mais au contraire, comme un élément permettant d'évoluer dans la vie, et éventuellement de se former ultérieurement dans l'enseignement supérieur. Rappelons qu'aujourd'hui, de nombreux bacheliers professionnels vont dans l'enseignement supérieur, y échouent, provoquant à la fois des frustrations du chômage et aussi des difficultés pour la structure universitaire. C'est évidemment là aussi un phénomène qu'il faut endiguer. Repensant le BTS comme recevant essentiellement des bacheliers professionnels, et là aussi en faisant évoluer les BTS pour qu'ils correspondent à ce que sont les bacheliers professionnels et à ce que sont les besoins. Monsieur le Président, j'ai combien... Ça finit à quelle heure ? C'est... Un quart d'heure, pour mon propos ou... D'accord. Donc, à partir du moment où cet élément-là est posé, on peut arriver à trois axes d'évolution d'un lycée professionnel ainsi dessiné. D'abord, un changement du discours et donc un changement de l'image. Montrer que l'insertion professionnelle peut être synonyme d'excellence, c'est montrer que la qualification en lycée professionnel est une qualification correspondant à des domaines en pointe sur le plan économique, et donc montrer que le lycée professionnel est articulé avec la vie économique. Ceci, j'y reviendrai après, a un impact sur la gouvernance, puisque cela signifierait que les régions ne seraient pas seulement le lycée professionnel ne serait pas seulement gouverné par la tutelle régionale, mais aussi par des conseils d'administration où les entreprises joueraient un rôle très important. Toujours dans le changement de discours, la promotion de l'excellence pourrait passer par un discours non pas sur l'élévation du niveau de formation, mais sur la poursuite de la professionnalisation. Cela n'a l'air de rien, mais c'est un changement de paradigme. Aujourd'hui, lorsqu'on veut montrer que le bac pro n'est pas une voie de relégation, on dit « mais vous pouvez continuer ensuite », ce qui est en fait une fausse promesse. La vraie promesse, c'est de montrer que les éléments de certification que l'on a quand on va dans un lycée professionnel sont des éléments qui permettent d'appuyer la professionnalisation qui suivra et de créer aussi des passerelles entre des métiers qui se ressemblent. C'est par exemple le technicien supérieur qui ultérieurement pourra devenir ingénieur par par une série de certifications, par une valorisation des acquis de l'expérience, et non pas un bachelier professionnel qui va en licence de sociologie et qui échoue en fin de première année. Donc arrêter la course au diplôme, la fuite en avant vers l'université, est évidemment la façon d'éviter l'échec massif des jeunes. Une meilleure articulation donc de la formation initiale et de la formation tout au long de la vie fait partie de cette logique de changement du discours et des parcours. Cette meilleure articulation passe par une prise en compte par les institutions en charge de la formation tout au long de la vie, de ce qui se passe et de ce qui se passerait dans les lycées professionnels. Donc cela peut être l'université sous l'angle de ces formations pratiques, mais aussi de ces formations théoriques pour des bacheliers professionnels qui ont fait leurs preuves, et donc un système de passerelles bien conçu pour les lycéens, pour les bacheliers professionnels, une fois qu'ils sont dans la vie active. La modernisation donc de la voie professionnelle et de son image passe aussi par des opérations qui valorisent cette voie, parfois en renouant avec de belles traditions, certaines dont vous êtes partie, dont l'Institut est parfois partie prenante, le concours général, bien entendu, les Olympiades qui existent, le système de compagnonnage qui peut être totalement revitalisé dans les années qui viennent. Et tout cet ensemble peut véritablement changer demain l'image de la voie professionnelle et donc des discours d'orientation qui sont tenus en amont de la voie professionnelle. Je voudrais donner un exemple sur ces questions d'orientation et sur ces questions d'image. Lorsque j'étais directeur général de l'enseignement scolaire, nous avons réalisé une expérimentation dans l'Académie de Versailles, qui était une expérimentation d'ailleurs qui prolongeait une autre expérimentation que l'on avait eue dans l'Académie de Créteil, et c'était ce que nous appelions la mallette des parents orientation. La mallette des parents, lorsque nous la faisions en 6e à Créteil, c'était pour accueillir des groupes de parents d'élèves au premier trimestre, en classe de 6e, de façon à articuler les aspirations des parents et celles du collège, puisque l'on sait qu'un des facteurs majeurs de réussite de l'élève, c'est la convergence entre les valeurs de la famille et les valeurs de l'établissement, et que mieux vaut avoir des parents pauvres, analphabètes, mais qui croient en l'école, que des parents riches et cultivés qui n'y croient pas. Cette assertion nous a conduit à faire la première expérimentation évaluée scientifiquement de l'histoire de l'éducation nationale, une évaluation faite par l'École d'économie de Paris, qui a donné lieu à des publications internationales et qui a donné lieu aussi à une généralisation du dispositif. Ça, c'était la mallette des parents 6e. Sur ces bases-là, on a fait la mallette des parents 3e dans l'Académie de Versailles, qui est une mallette des parents tournée vers la question de l'orientation. Et où cette fois-ci, ce qui s'est passé, c'est dans le même état d'esprit, d'accueillir les parents d'élèves pour parler des perspectives d'orientation et donc montrer des voies professionnelles intéressantes et utiles pour les jeunes. On a eu donc plus d'élèves choisissant la voie professionnelle par ce biais-là, et on a ensuite mesuré la réussite ou non de leur parcours. Et on a très bien vu, notamment, une diminution du taux de décrochage, une amélioration de l'insertion professionnelle. L'ensemble des facteurs, y compris l'assiduité, bien entendu, ont été touchés positivement par cette opération, qui était pourtant une opération de petite envergure, jouant sur l'un des facteurs et pas sur l'ensemble. On voit bien donc que la politique d'information, la politique d'orientation en amont, si elle est bien faite, si elle est personnalisée, a un impact. Et je mets cela évidemment dans la politique générale d'image de l'enseignement professionnel. Deuxième grand axe, en plus de l'évolution du discours et de l'image, mais vous voyez bien qu'en parlant du discours et de l'image, on tire l'ensemble de la pelote, la reprofessionnalisation de la voie professionnelle. Cela paraît être un truisme, mais c'est ce qu'il faut réussir. Donc d'abord, en la retirant de l'éducation nationale, c'est ce que je disais tout à l'heure, en la confiant à un acteur unique, donc la région, en la défonctionnarisant. Aujourd'hui, on a des professeurs de lycée professionnel qui souvent sont sont très talentueux. Il y a, ce que je dis là donc, n'est pas du tout une attaque des professeurs de lycée professionnel. Beaucoup d'entre eux seraient d'ailleurs très utiles en collège, puisqu'ils ont développé la bivalence, donc la capacité à maîtriser deux disciplines, qui correspond à un besoin que l'on a fortement au collège. Et ceci notamment donc pour les professeurs des lycées professionnels dispensant un enseignement dans les disciplines générales. En ce qui concerne les professeurs dans les domaines professionnels stricto sensu, par exemple dans le domaine de la production comme dans le domaine des services, ce qui est très clair, c'est que on a souvent eu une approche très théorique du niveau de qualification que l'on souhaitait pour ces professeurs, alors même que l'on pourrait imaginer des contractuels issus du monde de l'entreprise. Et j'ai même souvent vu des personnes tout à fait compétentes ne pouvant pas enseigner, tout simplement parce qu'elles ne correspondaient pas à des critères qui en réalité correspondait à des critères théoriques que l'on voit dans le monde de l'enseignement général. L'exemple typique, c'est les questions que l'on s'est posées au moment de la masterisation de la formation des professeurs, quand on se demandait, puisqu'il fallait que tout professeur de France ait un master, et qu'on se demandait qu'est-ce que ce serait un master pour un professeur dans l'enseignement professionnel. On voit bien que c'est un débat totalement théorique, totalement contre-productif et inutile, et que on pourrait, avec beaucoup plus de liberté pour le chef d'établissement dans sa façon de recruter, avoir des formateurs contractuels issus de l'entreprise, pouvant même être à cheval sur l'entreprise et le lycée, qui apporterait beaucoup. Donc une évolution du statut serait corrélative à l'évolution vers la région. Bien entendu, cette évolution ne pourrait pas se faire du jour au lendemain. Elle prendrait du temps. Mais on peut très bien imaginer quelques premières réalisations expérimentales qui ensuite deviendraient contagieuses. Lorsque les personnels sont fonctionnaires sont donnés à des collectivités locales, il y a toujours un certain nombre de peurs qui s'expriment. Mais on a déjà l'expérience de cela en 2004, quand on a eu le transfert des personnels techniques, ouvriers et de service, les fameux TOS. Il y a eu beaucoup de craintes. Et finalement, je dis ça sous le contrôle de Xavier Darcos, mais une véritable réussite de cette politique. Et ceux qui sont concernés s'en sont félicités ensuite, parce que leur salaire, leurs conditions de travail s'en sont trouvées améliorées. Donc certains fonctionnaires connaîtraient une amélioration par le changement de tutelle, d'autres connaîtraient des changements d'affectation. On commencerait par des établissements volontaires. C'est quelque chose de tout à fait imaginable. On s'appuierait sur ce qui réussit déjà en France, parce que je ne voudrais pas que le tableau que j'ai dressé conduise, sur ce point comme sur d'autres, à penser que tout va mal dans le système tel qu'il est. Fort heureusement, des choses vont très bien dans plusieurs endroits. J'ai cité l'Alsace, mais j'ai vu des lycées professionnels dans toute la France qui vont bien. Il y a eu notamment toute la politique des lycées des métiers qui s'est déployée dans les années 2000, qui conduit à avoir de très beaux lycées, qui souvent d'ailleurs obéissent un petit peu au principe que j'ai proposé, avec une forte autonomie, une forte articulation avec le milieu économique, et surtout une forte identité. Lorsque vous avez un lycée des métiers et des voitures, ce lycée des métiers a évidemment un sens, une attractivité particulière dans la région où il se trouve. Et donc ce prestige est tout à fait possible, et on en peut en être d'autant plus certain que c'est déjà une réalité dans un nombre de cas minoritaires, mais c'est cela que l'on doit viser. On peut aussi revisiter la question du pré-apprentissage. C'est un sujet éminemment polémique, pour passer de 15 à 14 ans pour une petite minorité d'élèves, mais une minorité qui demande cela, et qui le demande très fortement, puisqu'on a parfois des élèves qui décrochent et qui, en réalité, raccrochent facilement lorsque ils sont devant des expériences pratiques. Donc il y a là un sujet politique et juridique qui ne doit pas être considéré comme l'alpha et l'oméga de ce qu'il y a à faire, parce que c'est de toutes les façons une minorité d'élèves qui serait concernée. Mais c'est un sujet important aussi. On pourrait aussi envisager de limiter le poids des disciplines académiques. Aujourd'hui, c'est 50 à 55% d'enseignement général qui est délivré dans un lycée professionnel. Et cela explique en partie le taux d'abandon élevé. Là aussi, il faut être très clair, ce n'est pas parce que l'on dit cela qu'on dévalorise le lycée professionnel, là, et on doit toujours permettre d'avoir des passerelles pour ceux des élèves qui se trouveraient par mégarde en lycée professionnel ou ceux des élèves qui se révèlent avec le temps. Cela existe. Par exemple, j'ai poussé, lorsque j'étais DGESCO, la création à Montceau-les-Mines d'une classe préparatoire pour bachelier professionnel, classe préparatoire ingénieur. L'un de ses élèves, depuis, s'était adossé à un internat d'excellence, dont vous avez bien voulu rappeler l'existence. L'un d'entre eux a intégré Polytechnique. Mais le vivier de cette classe, c'est toute la France. Et c'est évidemment une toute petite minorité de bacheliers professionnels. Mais c'est pour dire que les passerelles sont possibles, que bien entendu, il faut des possibilités d'aller vers l'enseignement général, même si on est passé par le bac professionnel. Mais ça ne doit pas concerner, ça ne doit pas être l'élément qui fasse concevoir le système, ni non plus l'élément qui caractérise un trop grand nombre de parcours, parce que dans ce cas-là, cela conduit à l'échec. On doit donc, toujours dans l'optique de reprofessionnaliser la voie professionnelle, s'assurer que la carte des formations corresponde davantage à la situation économique locale, donc en renforçant, comme je le proposais, le poids des instances économiques dans le pilotage. Alors souvent, quand on dit ça, je me souviens que lorsque j'étais recteur, vous avez un certain nombre de personnels spécialisés autour de vous pour cela. Et lorsque vous dites ce que je viens de dire, on peut vous dire « mais alors vous êtes un... » Alors c'est un mot affreux, vous êtes un adéquationniste. Alors un adéquationniste, c'est quelqu'un qui s'intéresse de trop près à l'adéquation entre le marché du travail et la formation. Et c'est vraiment une insulte assez grave dans certains milieux. Alors, bien entendu, il y a une part de l'argument qu'il faut savoir entendre, et qui est en gros que... il faut faire attention à pas former au métier d'aujourd'hui des élèves qui vont exercer les métiers de demain, et que il faut surtout leur donner les éléments pour s'adapter à l'avenir. C'est évidemment un argument auquel on ne peut que souscrire, mais qui n'interdit pas d'être attentif aux évolutions de l'économie à court terme dans l'environnement immédiat. Et d'ailleurs, le fait de s'intéresser au court terme n'a jamais interdit de s'intéresser au long terme et d'articuler l'un et l'autre. Surtout si le résultat concret, c'est de trouver des emplois pour les élèves qui sortent du système. Enfin, troisième axe, et par lequel je vais donc terminer, c'est celui de simplifier la voie professionnelle. Je l'ai déjà finalement largement touché par les points que j'ai mentionnés précédemment, puisque la réforme qui consisterait à régionaliser l'enseignement professionnel serait le grand élément de simplification, à l'image de ce qui se passe pour les Länder en Allemagne. Ce serait un élément de simplification quant à la lisibilité. Ce serait aussi un élément de simplification juridique, puisque cela ferait fonctionner à plein le principe de subsidiarité. Dans le cas de l'Allemagne, on a moins de lois sur l'enseignement professionnel, moins de lois sur l'apprentissage, et on laisse beaucoup plus de latitude aux Länder pour préciser un certain nombre de choses. Tandis qu'en France, on a eu ces dernières années plusieurs lois, qui sont trop nombreuses, qui ont changé les règles du jeu, qui souvent... avec de bonnes intentions, conduisent à créer des contraintes nouvelles, inutiles. Par exemple, un sujet très sensible qui est les règles de sécurité pour les apprentis est un sujet qui peut être réglé à une échelle plus locale, alors que en voulant sans arrêt appliquer le principe de précaution, on arrive parfois à des conséquences contre-productives pour les apprentis eux-mêmes. On pourrait aussi réduire le nombre de spécialités. Elles sont au nombre environ de 300 en Allemagne. Elles sont plus nombreuses en France et on devrait les réduire. En améliorant la réactivité grâce aux différents milieux professionnels. Et en simplifiant aussi le mode de financement, on pourrait avoir moins de subventions, mais aussi symétriquement moins de cotisations sociales, de façon à ce que les apprentis, comme en Allemagne, assument de manière plus directe les apprentis, plutôt que d'avoir des mécanismes financiers complexes qui empêchent l'embauche. Là, on pourrait arriver aussi par la même occasion à une simplification des différents incitations à l'embauche qui existent entre les contrats d'avenir, les contrats de génération, l'ensemble des contrats aidés qui sont extrêmement chers et qui pourraient être reconvertis en financement de l'apprentissage de manière beaucoup plus efficace. Donc, au total, mieux adapter la formation à l'entreprise que ça n'est le cas aujourd'hui, en supprimant par exemple le besoin pour le tuteur de justifier d'un niveau de diplôme requis, en incitant les branches à négocier sur des sujets telle que la gratification que l'on verse au maître d'apprentissage, décentraliser au maximum la décision, y compris au niveau de l'entreprise, en donnant des garanties de base à l'apprenti et non pas des garanties de détail qui doivent relever des acteurs. Tout ceci pourrait déboucher donc sur une meilleure insertion professionnelle, sur une plus grande satisfaction de l'ensemble des acteurs, bien entendu des entreprises qui aujourd'hui ne trouvent pas les employés dont elles ont besoin, mais encore plus des élèves eux-mêmes qui demain pourraient être considérés comme étant en pointe dans l'économie d'aujourd'hui et qui aujourd'hui malheureusement ne sont pas dans cette situation. Merci beaucoup.